Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon.
Des clés pour vivre, j'ai bien envie. Je vous salue sans plus tarder, Bernadette et Franco. Bonjour.
Bonjour.
Merci à vous. Hein, vous avez été persévérant. Vous êtes resté fidèle dans cette série des clés pour vivre. Alors, dans cette belle communauté, il y a 72 communautés dans le monde, Franco,
dans le monde entier, avec
pour fondatrice Mère Elvira, qui est toujours en vie.
Qui est toujours en vie.
Voilà, oui. Un peu vieillissante, mais oui. Toujours oui. En vie. Dans ces communautés, c'est un accueil de jeunes et d'adultes abîmés par la vie, avec de fortes dépendances, drogue, alcool ou autres dépendances. Il y a aussi cet accueil particulier, peu nombreux dans les communautés, mais l'accueil parfois de prêtres. Voilà,
oui.
De consacrer. Alors, c'est une belle mission que vous avez tous les deux. Et vous avez actuellement, je crois, deux frères prêtres que vous accueillez. Mm-hmm. Alors, pourquoi accueillez-vous des prêtres?
Et oui,
rien à voir avec la mission première de jeunes toxicomanes égarés sur le chemin et la route. Alors, racontez-nous.
Oui. Ce sont des hommes comme les autres.
Exactement, je voulais dire, ce sont des hommes, hein, et des hommes, quelquefois, ils ont besoin d'une période de pause pour se remettre et repartir après. Le but du cénacle, c'est toujours accueillir quelqu'un un petit peu en difficulté, le remettre sur les rails à travers la vérité, la prière et la communication, la parole et l'écoute, pour après repartir dans leur ministère et leur vie. C'est arrivé, ça fait, je dirais, 12 ans, le premier consacré qu'on a accueilli, qu'il avait quelques petits soucis, et son supérieur lui a conseillé d'aller vivre un certain temps au Cénacolo. Il est arrivé et on l'a accueilli. Et enfin, on a découvert assez vite que les produits, ce n'est pas les problèmes. Les problèmes, c'est vraiment quelque chose de plus profond dans ton cœur. Et vivre cette vérité, souvent, beaucoup de consacrés n'ont pas l'habitude, quand même. On ne se dit pas toujours la vérité, comme on l'a dit au Cénacolo, dans d'autres lieux de vie. On l'a dit au bon Dieu, on l'a dit en confession, mais pas aux frères et sœurs qu'ils vivent avec nous. Et nous, on a cette besoin, hein, parce qu'on est des toxicomanes, on a besoin vraiment d'échanger, et tout seul on n'arrive pas, on a besoin de la correction fraternelle et du regard des autres. Et ça, ça nous fait évoluer. Et ça, ça a aidé aussi des consacrés à avoir un style de vie assez simple, mais très important et très exigeant. Je me souviens, un prêtre qui était accueilli chez nous, il avait vu écrit sur un mur au réfectoire, s'éteindre, avaler et sourire, et il m'a dit, dans ma vie religieuse, j'ai jamais fait ça. Et moi, j'ai dit, oh là là, tu as besoin peut-être d'un petit peu de Cénacolo. Il faut aussi accepter le jeu. Après, on parle avec leur évêque, leur supérieur, pour leur expliquer que s'il vient au Cénacolo, il a besoin de se mettre à l'égal des autres. Et alors, pas célébrer la messe, pas confesser, pour pas jouer un rôle en face aux autres, mais vraiment vivre comme les autres. Dans la vérité, dans le travail, dans les petits sacrifices, dans la prière personnelle, mais dans la vérité. Chez nous, ça ressort comme tu es, vraiment. Et là, après, on avance avec l'espérance. Souvent, il a la foi, il a une belle foi. Mais il y a quelque chose, des blessures qui sont été dans leur enfance, qui sont été pas travaillées. Et chez nous, on arrive à les travailler un peu, les faire évoluer pour, vers la fin de leur parcours, recommencer leur ministère, à célébrer, à confesser. Et c'est aussi une richesse pour nous.
Alors, on entend que dans cette période où ces frères prêtres font une halte dans la communauté, ils ne célèbrent plus les sacrements, ni messe, ni confession. C'est l'arrêt total du ministère.
Oui, ça, c'est pas nous qui le décide, c'est leur supérieur et leur évêque. Hein. Il y a vraiment besoin d'une période assez longue au Cénacolo. Nous on dit c'est mieux s'il veut vraiment évoluer qu'il arrête son ministère.
Au fond, c'est pour faire vérité sur la vocation, vérifier la vocation où on en est dans sa vocation.
Moi, je vous dis d'abord
cette épreuve.
Moi, je dis d'abord d'être un homme de Dieu il faut en être un homme. Et au Cénacolo, tu découvres comme tu es et tu deviens un homme. Et après, si la vocation elle était forte, tu es un homme de Dieu et tu continues ton chemin. Et ça, c'est
ça
très...
peut arriver qu'il y ait une remise en question de la vocation, mais c'est assez rare, c'est relativement rare.
Mais c'est, je pense que c'est un chemin personnel et après, toujours, il y a un accompagnateur de l'extérieur, un prêtre.
Mais est-ce que l'accompagnement est particulier? Est-ce que vous, Bernadette et Franco, vous accompagnez ces frères prêtres qui font pour
moi,
un temps une,
moi,
un arrêt dans la communauté?
Moi, je les accueille, je les écoute, je leur donne des conseils pour bien vivre le Cénacolo, mais on demande toujours un accompagnement extérieur. Et souvent, c'est un chapelain du sanctuaire à Lourdes ou quelqu'un, un religieux.
Alors, quels sont les résultats de ces frères prêtres ou sœurs consacrées qui s'arrêtent un temps
C'est magnifique, hein, c'est magnifique de voir voilà, le témoignage qu'ils peuvent donner après, et puis le changement, on le voit, de toute façon, ça se voit dans le visage. Moi, je dis souvent, il faudrait faire des photos avant et après, il n'y a pas besoin de parler, quoi.
Et vous faites les photos, non?
Alors bon,
à ce jour,
je fais les photos, souvent c'est après, mais c'est vrai qu'il faudrait
oui,
les faire en arrivant.
Il y a un garçon qui il va entrer et il avait les cheveux longs, tout. Et je dis, faites une photo avant, parce que... et après, faire une photo après. Mais je vous dis, pour exemple, il y a eu un ami, c'est devenu un ami après, qui est arrivé et... avec des problèmes, un peu d'addiction et tout, aussi s'il était consacré prêtre, et il a ouvert son sac pour laisser les choses, et je ne vous dis pas les désordres qu'il y avait dans son sac, et ça résumait sa vie en ce moment, quand il est arrivé. Et après, un travail d'ordre, de ménage, de propreté.
Il a fait le ménage pendant longtemps à la communauté. Et puis voilà, de temps en temps, on avait besoin de dire les choses aussi, gentiment.
Oui, de lui dire, lave-toi les pieds ou lave-toi les bâtons. Mais c'est une façon de vivre la vérité chez nous, simplement. Mais on te le dit. Au moins, on ne le pense pas, on ne parle pas quand tu es parti. Et on te le dit en face. Ça, c'est très important. Et cet bonhomme, après, il est devenu vraiment un homme propre, ordonné. Et quand même, il comprend son désordre. Maintenant, quand il sort dans une pièce, il se regarde arrière avant de fermer. Et après, et là, il a repris son ministère. Et c'est super. En plus, avec un esprit de vérité, qu'il touche aussi ses frères prêtres où il habite maintenant. C'est beau. Hein,
ce qui est beau, c'est ça, c'est que beaucoup de ceux qui ont vécu cette expérience la portent après là où ils sont. Dans leur petite fraternité, s'ils sont en fraternité, voilà, ils vont faire la révision de vie, comme on fait en communauté, ou ce moment particulier où on se dit les choses et où on écoute ce que les autres
ont à
dire.
Et en fait, c'est dans la vérité, mais au fond, dans la miséricorde.
Oui, c'est
cette grande miséricorde du Seigneur. C'est une maison de miséricorde.
Amour oui, c'est vérité. Un oasis de miséricorde.
Amour,
bien sûr.
Amour et vérité.
Amour et vérité.
Ouais,
oui.
Et providence aussi, car il y a aussi cette providence. Ça, c'est.
Mais nous, tous les jours, on dit au moins trois
et
fois.
Et vos
par
jeunes,
jour.
Vos jeunes vivent cette providence.
Oui.
Pour eux, c'est un témoignage, c'est grandir aussi dans la foi à travers ça, de voir arriver tous les jours tout ce dont on a besoin, hein, on le reçoit vraiment, et c'est impressionnant, quoi. Alors des fois, on est vraiment surpris.
Moi, je pense Saint-Joseph, on le dit tous les jours, merci, pourvoi pour nous. Saint-Joseph, merci, pourvoi pour nous dans nos prières.
Vous n'avez pas attendu de prier Saint-Joseph, il en est spécial Saint-Joseph pour le prier.
Oui. Ah non, ça fait 20 ans que j'ai prié.
Ça fait partie de la...
Saint-Joseph au moins 3 fois par jour.
De la prière de la communauté, oui.
Mais parce que quand on s'abandonne à la Providence, ça veut dire qu'on ne fait pas d'achat, on vit des dons, et quelquefois, ça manque des choses, et qui je prie, appelé Saint-Joseph. Alors, cette année, c'est spécial, c'est magnifique pour moi. C'est vraiment quelque chose d'encore plus beau. Et je dis encore plus, Saint-Joseph, merci pour voir pour nous.
Et c'est... ce merci à Saint-Joseph, c'est toute la communauté, les jeunes aussi.
Et à la fin de chaque chapelet, on dit Saint-Joseph, grazie, provvedi per noi.
Saint-Joseph, voilà. Merci pour voir pour nous.
En italien.
Et c'est trois chapelets par jour?
Oui, trois fois par jour.
La messe tous les jours?
Non, pour les garçons, c'est deux fois par jour. Deux
obligatoire
fois par... Non, pardon. Deux fois par semaine.
C'est lapsus.
Deux fois par semaine. Voilà.
Une messe, ces deux messes sont obligatoires ou les jeunes sont dans cette liberté des enfants de Dieu?
Oui, nous, on a des moments de prière très forts, mais si un garçon ne veut pas venir parce qu'il est allergique à la prière, quand même, il va travailler ou continuer à faire des activités. Souvent, on est assez fainéant pour accepter de venir à la chapelle, aussi si on ne croit pas encore en Dieu. Et nous, on le fait venir parce qu'on sait que le Seigneur, il agit quand même.
Et au fond, quand ces jeunes quittent le Cénaculo, ils sont tous convertis, le cœur est ouvert.
Non, il en touchait quelque chose, et moi je suis sûr, comme elle nous disait sœur Elvira, que ça rend sauvé, parce qu'il y a eu une petite rencontre, un petit déclic avec Jésus au Dieu. Mais après, il faut le pratiquer, comme nous tous. Moi, je remercie aussi, parce que cette paternité, je la partage. Par exemple, tous les mercredis matin à 7h, j'ai des amis de Lourdes qui viennent à faire une prière des pères. Et on fait, mais de l'extérieur, sans nos garçons. C'est vraiment quelque chose que ça me porte encore plus dans la paternité. Ça fait 5 ans qu'on le fait, tous les mercredis matin à 7h, la chapelle de Cénaculo s'est ouverte. Et on prie un chapelet, on lit la parole et après on prend un petit déj entre hommes. Et là, ça nous booste, ça nous aide, ça nous porte un avec l'autre. Et ça, c'est une des grâces de Lourdes.
Alors, et c'est à Franco que je vais poser la question et ça sera la fin aussi de cette semaine avec vous. Et je vous remercie à tous les deux pour les pères qui nous écoutent et vous ont suivi à tous les deux, peut-être en difficulté actuellement dans leur paternité. Un mot, je sais pas, d'encouragement, de bienveillance, Franco, oui. Avec votre expérience, grande expérience de père, puisque aujourd'hui vous avez 32 enfants.
Oui, nous, à la prière des pères entre hommes le mercredi matin, c'est père en genoux, enfant debout. Mais je pense qu'il faut prendre, surtout pour les pères, il faut prendre du temps avec nos enfants. C'est ça, et pas les laisser toujours à la mère ou essayer de leur faire d'autres activités. Et nous, il faut prendre le temps, renoncer à quelques, peut-être heures de travail aussi, mais prenez du temps avec vos enfants.
Et Bernadette, un mot de fin?
Un mot de fin, eh bien, merci mon Dieu pour tout ce qu'on voit, pour voilà, toute son œuvre à travers cette belle mission. Merci.
Et merci à vous deux, Bernadette et Franco, pour ces différentes émissions de la semaine. Belle mission encore, et puis on espère peut-être prochainement, sur les ondes de nos radios chrétiennes, recevoir le témoignage de certains de ces jeunes qui sont actuellement dans cette maison de Lourdes. Au revoir.
Avec joie.
Au revoir. Au revoir.